RCF.
Chers amis de la philosophie, bonjour. Vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de pensée, une émission consacrée à la découverte des textes de philosophie. Alors, nous avons passé 6 épisodes précédents sur la découverte de Pascal.
Sans compter les rediffusions.
Sans compter les rediffusions, en effet. Et nous allons maintenant aborder un nouvel auteur. Alors, un nouvel auteur qui, pour une fois, n'est pas, et les phrases que je vais dire vont peut-être susciter quelques controverses, n'est pas un philosophe, donc il s'agit d'Albert Camus. Et nous avons choisi de commencer avec une nouvelle, on ne sait pas trop comment appeler ça, assez curieux, qui s'appelle La Chute. Mais avant d'aborder La Chute de Camus, nous allons demander à Nicolas Lemoine de faire un résumé des épisodes précédents.
Alors, après avoir abordé la notion de divertissement, c'est-à-dire toutes ces activités déployées par l'homme pour oublier la misère de sa condition, nous avons, la semaine dernière, parlé du pari pascalien. La raison ne peut pas trancher quant à l'existence d'un Dieu personnel et caché, tel que celui révélé par les prophètes puis par Jésus-Christ. Le juste serait donc de ne pas trancher entre ces deux possibilités. Il n'existe pas de bon choix entre croix ou pile, comme si on tirait à pile ou face. Nous devons donc parier, sans pouvoir savoir, parce que nous sommes embarqués dans l'existence. Pascal se livre alors à un calcul d'espérance mathématique, avec un calcul de probabilité. Si on se comporte comme si ce Dieu révélé existait, on ne perd rien, si on perd, parce qu'on est honnête homme, fidèle, etc. Et si on gagne, on gagne une vie éternelle de délices. Et au contraire, si on se comporte comme si Dieu n'existait pas, on perd à coup sûr, d'une part parce que la vie n'est pas forcément si belle que cela, puis d'autre part parce que on risque de tout perdre. Donc, contre les rationalistes, Pascal conclut qu'il est rationnel de parier. Et nous avons ensuite opposé Brassens à Pascal, qui essayait de déplacer le pari pascalien. D'une part, Pascal dit à ceux qui sont convaincus qu'il faut parier pour l'existence de Dieu, mais qui ne peuvent s'y résoudre, Pascal leur dit qu'il faut commencer par faire semblant. Et Brassens décrit de façon cocasse ce qui peut arriver quand on se ment à soi-même de ce niveau-là, quand on s'abrutit pour se convaincre d'avoir la foi, et il finit en disant « la foi viendra d'elle-même ou ne viendra pas ». Et finalement, c'est un argument recevable par un chrétien, puisque la foi est un don de Dieu, c'est pas quelque chose qui se conquiert. Et puis, deuxième point, donc, Pascal affirme qu'il n'y a pas de morale sans foi, et Brassens se conteste en disant qu'on peut très bien se conduire pas plus mal qu'un autre sans avoir la foi. À quoi Nazim est venu au secours de Pascal en disant « Très bien, s'il a quelque chose pour améliorer l'âme de l'homme, qu'il le dise, mais s'il n'y en a pas, tout est bon pour améliorer l'âme de l'homme, y compris un calcul de Golden Boy faisant ses petites calculs d'optimisation boursière quant à la vie future. »
Bah merci Nicolas, très, très bien dit, et ça nous met directement dans le thème, à mon avis, qui est aussi celui de la chute, puisque Albert Camus, donc on l'a dit, va nous présenter un texte qui n'est pas un texte de philosophie, mais avec un fort contenu philosophique, et il me semble que directement la question de savoir qu'est-ce qui améliore l'homme va être posée.
Voilà. Sans doute.
Alors on va voir quel est l'homme à améliorer, peut-être on peut entrer en matière tout de suite, et on va donner la parole à Anne qui va nous installer dans l'ambiance de la chute qui se passe. Alors Camus, hein, la plupart de ces Camus est un auteur algérien, et ses essais se passent pour beaucoup au soleil, mais là pour une fois nous sommes pas sur les rives d'Afrique du Nord, mais nous sommes à Amsterdam. Voilà. Alors on donne la parole à Anne Bonneau qui va nous faire découvrir un extrait de cette œuvre.
Oui, donc il parle des gens qui circulent sur les canaux d'Amsterdam.
Ils marchent près de nous, il est vrai. Et pourtant, voyez où se trouve leur tête. Dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes. La Hollande est un songe, monsieur. Un songe d'or et de fumée. Plus fumeux le jour, plus doré la nuit. Et nuit et jour, ce songe est peuplé de Lohengrin comme ceux-ci, filant rêveusement sur leur noire bicyclette à haut guidon, signe funèbre qui tourne sans trêve dans tout le pays, autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent la tête dans leur nuée cuivrée, ils roulent en rond, ils prient, somnambules, dans l'encens doré de la brume. Ils ne sont plus là.
Merci Anne. Est-ce que vous souhaitez faire des commentaires sur cet extrait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a capté votre attention?
Bon, moi, c'était un petit peu au niveau poésie. Je note que c'est une poésie de la ville, la poésie des néons. Donc, c'est quelque chose qui m'a un peu plu parce que la poésie avant, c'était surtout la poésie de la nature. Hein, c'était plutôt au lac suspend ton vol. Donc là, ça me rappelle un petit peu aussi ce qu'a fait Prévert, par exemple, avec la chanson Rappelle-toi Barbara, où il parle de la guerre dans Brest. Et puis Prévert est vraiment un contemporain de Camus.
D'accord. Comment on peut interpréter ce mot « ils ne sont plus là » ? Bon, alors il continue, après il nous dit qu'ils sont partis, les Hollandais. Ils sont partis.
Ils sont là sans y être.
Voilà, alors ça c'est.
Oui, parce qu'il dit qu'il.
Oui, alors on donne la parole à Sylvain Contassovillier parce que je ne t'ai pas présenté.
Non, il n'y a pas de souci, mais effectivement, ouais, voilà, il dit juste avant qu'il rêve. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont plus là, ils sont absents. Dans le présent, quoi. Si on...
Ils sont absents dans le présent. Alors, est-ce que ça ne va pas présent, annoncer quelque chose de la teneur de ce roman, finalement? Est-ce que ce n'est pas une patiente méditation sur la condition, on va dire, moderne, où on est là sans y être, où l'homme moderne n'est jamais là où il est, quoi. Il est toujours en projection dans un ailleurs ou dans ses prochaines vacances ou des choses comme ça.
C'est l'un des thèmes du roman, effectivement. Là, c'est un texte extrait du chapitre 1. Enfin, les chapitres ne sont pas formellement numérotés, mais on peut clairement les identifier.
Oui.
Et donc, c'est le premier d'entre eux. Et ce premier chapitre de cette œuvre d'art, hein, puisque tu viens me le présenter comme une œuvre d'art,
alors,
et c'est vrai.
Je crois que c'est assez clair. Quand on lit ce qu'a lu Anne, on voit que ce n'est pas un traité de philosophie. Hein.
C'est vrai. Voilà. Et donc, ce premier chapitre s'annonce comme le prélude, l'introduction d'une symphonie. Dans une symphonie, très souvent, le compositeur annonce les thèmes qui reviendront dans les différents mouvements de la symphonie. Et c'est exactement ce que fait Camus dans ce premier chapitre. Et donc, le chapitre 1 annonce les thèmes qui seront développés dans les chapitres suivants. Et donc, ce thème-là, d'y être sans y être, effectivement, c'est l'un des thèmes qui reviendra.
Ça me fait penser à ce que tu dis à propos d'une symphonie. Ça peut être aussi un opéra. Hein. Quand on écoute le début du Don Giovanni, par exemple, de Mozart, on a vraiment toute l'ambiance.
Ou de Carmen, oui, bien sûr.
Voilà. Oui, ou de Carmen, etc. Voilà. Donc, toi, tu y vois une lecture musicale dans ce premier paragraphe.
Oui.
C'est-à-dire, il y a des petites choses qui sont données et qui vont orienter la lecture plus tard.
Orienter, non, c'est annoncé.
C'est annoncé. Et peut-être on va pas trop en dire pour laisser aussi aux auditeurs des Neveux de René le temps aussi de se procurer le texte et de lire. On va pas dévoiler tout d'un coup.
Alors peut-être qu'on pourrait annoncer globalement le cadre du roman tel qu'il est annoncé dans le premier chapitre.
Effectivement, oui. Quel est ce cadre, Nicolas?
Alors donc, comme tu l'as dit, le cadre, c'est la ville d'Amsterdam avec ses brumes. Le roman commence dans un bar louche. Un homme, un touriste français, se fait aborder par un compatriote manifestement familier du lieu, qui se présente à lui comme indispensable pour obtenir du tenancier du lieu un verre de genièvre. Le touriste l'invite à boire ensemble. Le compatriote est un ancien avocat qui se présente sous le nom de Jean-Baptiste Clémence. Et il parle en effet avec faconde, montrant une grande culture et un beau langage. Et il va complètement subjuguer son interlocuteur au point que cet interlocuteur, de lui-même, va revenir le voir 4 jours de suite, enfin les 4 jours qui suivent. Et donc ces 4 jours vont être découpés en 5 chapitres, puisqu'il y a un jour qui va tenir sur 2 chapitres dans l'œuvre de Camus, et jusqu'à la finale du roman.
Alors Anne, Sylvain, peut-être vous pouvez dire... ou ce qui vous plaît ou vous déplaît moins dans l'abord de ce texte. Déjà, je pense que ce que j'avais compris, c'est qu'Anne, toi, tu étais très enthousiaste, alors que Sylvain, beaucoup moins.
Oui, moi j'étais très enthousiaste parce que bon, le personnage est superbe, par exemple. Hein, voilà, il est très désinvolte, il est, comme aussi a dit Nicolas, très oui, cultivé.
On peut donner des exemples de, oui, de cette superbe, de cette faconde dont il use pour subjuguer.
Bah oui, mais déjà son style. Permettez-moi de me présenter, Jean-Baptiste Clamence, pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires ? À peu près. Excellente réponse. Judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près des choses. Etc. Mmh. Voilà, il parle toujours comme ça, avec beaucoup, effectivement, de superbe. Et on sent que c'est quelqu'un qui, effectivement, se sent au-dessus.
Mmh. Et toi, Sylvain, tu étais plus dubitatif.
Oui, alors en fait, ce qui m'a un peu gêné, moi, dans ce roman, c'est, en final, le monologue. Parce que, alors je dis ça sans trahir de secret, hein, mais au final, il n'y a que ce personnage qui va parler tout le long du roman.
Du moins qu'on entend.
Qu'on entend.
Alors l'autre semble donner des répliques.
Oui, ils ne sont pas précisés en fait.
Une analyse intéressante qui est faite par Pierre-Louis Rey, on peut trouver un article qu'il a consacré à la chute dans le dictionnaire Camus paru à la collection Bouquin, dans la collection Bouquin. Il dit c'est un peu comme au théâtre. Quand il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre au bout du fil, il est obligé de manière artificieuse de redire ce que lui dit l'autre. Genre, mmh. Ah non, tu ne seras pas là dimanche.
Là, c'est ça, ouais. Dans le texte qu'a cité Anne, c'est exactement ça. Oui. Il répond à peu près.
Voilà.
Et donc,
voilà.
Il répond à peu
excellent
près.
Réponse. Excellent réponse. Mais voilà. Finalement, est-ce que c'est pas à peu près la même chose? Gorgias quand il est souvent laissé ses interlocuteurs disent oui, non ou des toutes petites phrases. Là, c'est pareil. Sauf pas qu'il a passé les oui, non, les toutes petites phrases.
Là, on a l'impression qu'il fait quand même un peu les réponses aussi.
Oui.
Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, juste pour terminer par rapport à cette impression, enfin, ce sentiment que j'ai eu en lisant, c'est que... alors, voilà, j'ai peut-être pas trouvé ce rythme et ce lyrisme. Je suis peut-être moins sensible à ça ou je sais pas. Hein, mais j'ai trouvé que c'était assez long finalement. Et ça peut fatiguer un peu le lecteur. Enfin, si on regarde dans la vie pratique, on se dit que ce personnage, il est un peu saoulant. Voilà. Alors, un petit peu l'idée, quoi.
Pour quand même donner envie aux lecteurs de lire.
Oui, bien sûr.
Pour pas leur...
Ça veut pas dire qu'il y a pas d'intérêt dans le contenu.
Il faut le lire à petite dose.
un jour chaque chapitre, et pas
voilà,
tout d'un coup.
C'est ça. C'est-à-dire que le contenu est très intéressant, bien sûr, mais c'est vrai que la forme est quand même est un peu difficile.
Ah oui,
en revanche, c'est court, hein. Il faut dire que c'est long, mais c'est court.
Alors oui, le livre n'est pas très long.
Le livre est très court. Et il faut dire que c'est une nouvelle. Hein. Au départ, c'est une nouvelle que Camus a développée, redéveloppée, jusqu'à en faire un ouvrage autonome. Mais au départ, c'est censé être une nouvelle, quoi. Et on voit bien, hein, quand on lit...
Mais on a quand même un peu cette impression. Alors, encore une fois, par rapport justement, peut-être aussi avec ce style de Clamence, d'une logorée qui ne s'arrête pas, quoi. Enfin, voilà.
C'est oui, mais il y a plein de remarques, de phrases qui nous prennent à partie.
C'est un feu d'artifice permanent.
Oui. On n'a pas envie de les perdre, on n'a pas envie de les rater, ces choses-là.
Alors sinon, Clamence se présente, il parle beaucoup, mais finalement, il reste mystérieux. C'est ça. La question qu'on peut se poser tout au long de ce roman, c'est finalement qui est cet homme. Et je vous propose de se la poser avec Jacques Brel, qui en tant qu'homme du Nord, pourra nous mettre dans l'ambiance de ces brumes du Nord.
Ah oui, excellente.
Avec Regarde bien petit.
Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien, est-ce un lointain voisin, un voyageur perdu, en revenant de guerre, un montreur de dentelle, et son abbé porteur de ces fausses nouvelles qui aident à vieillir. Est-ce mon frère qui vient me dire qu'il est temps d'un peu moins nous haïr, ou n'est-ce que le vent qui gonfle un peu le sable, forme des mirages pour nous passer le temps.
Alors Nicolas, merci pour cet extrait que tu nous as proposé. Est-ce que tu peux rappeler le titre de la chanson ?
C'est « Regarde bien petit ».
« Regarde bien petit » et dire pourquoi tu as choisi cette chanson de Brel.
Bien d'abord, on a le paysage du pays qui est le lieu du roman. Donc un paysage plat. Bon, pas d'éminence, pas de hauteur, Amsterdam, tout est plat. Alors, et la terre se mélange à la mer et au ciel.
Ça, c'est intéressant. Je peux noter que par rapport à Clamence, donc le personnage principal, le monsieur bavard, monologuant, lui, il a une aspiration contraire au sommet. Et il dit que ce qu'il souhaite, c'est des balcons à 500 ou 600 mètres au-dessus d'une mer encore visible et baigné de lumière, voilà. Il disait, un balcon naturel à 500 ou 600 mètres au-dessus d'une mer encore visible et baigné de lumière était au contraire l'endroit où je respirais le mieux, surtout si j'étais seul, bien au-dessus des fourmis humaines. Aussi, là. Donc on voit tout de suite que lui se positionne à soif d'être au-dessus des autres hommes. Voilà. On voit aussi un thème philosophique. On voit à la fois du Pascal et à la fois du Nietzsche. On dirait Pascal à travers la question de la vanité. Hein. Chacun, finalement, a une aspiration à se sentir au-dessus des autres. Hein. Ça, c'est normal, c'est dans la nature humaine. Et on voit Nietzsche à travers l'aspiration à la volonté, à maîtriser les choses, à être en prise avec le monde et dans la maîtrise des choses.
Et puis donc, l'autre raison, c'est que donc, dans cette chanson, il voit venir quelqu'un. Et il se demande qui c'est. Est-ce que c'est un imposteur ? Est-ce que c'est quelqu'un sans importance ? Est-ce que, au contraire, c'est une espèce de prophète qui va nous dire comment nous sortir de notre misère ? Ou bien est-ce que c'est un peu de vent qui gonfle un peu de sable qui, pour nous passer le temps ? Donc finalement, est-ce que ça va être juste une logorée ? Quelqu'un qui va parler pour le plaisir de parler et qui finalement sera que du vent ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va nous bouleverser ? Voilà. Et donc, c'est cette question-là que, sur laquelle on s'arrête pour le moment, puisqu'il va falloir aborder tout le roman pour se donner des éléments de réponse.
Et finalement, c'est la question qu'on peut rencontrer chaque fois qu'on rencontre un autre être humain.
Effectivement.
Est-ce que, quelque part, c'est quelqu'un qui peut dire une petite phrase qui va nous toucher et nous faire changer du tout au tout, ou est-ce que on va s'ennuyer.
S'ennuyer ou se divertir.
Ou se divertir.
Puisque Brel le dit explicitement, alors, pour nous passer le temps.
C'est justement là. C'est justement là que ce que tu viens de dire est assez intéressant, parce que tu as dit la petite phrase qui va nous faire changer. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est presque dommage, alors effectivement le lyrisme et tout ça, le talent de Camus n'est pas évidemment à remettre en cause, mais c'est la longueur de ce monologue qui presque quelque part dessert un peu le message, j'ai l'impression. Parce qu'au final, est-ce qu'il y a besoin d'autant, de parler autant à son interlocuteur pour dire ce qu'il a à dire.
C'est un peu la même chose que la question qu'on s'était posée. Pourquoi ils sont là et pas là ? Il me semble que La Chute de Camus, c'est une œuvre qui peut n'avoir été écrite qu'au XXe siècle. Et ce monologue, cette chose-là, est-ce qu'elle témoigne pas justement d'un certain caractère de l'être humain moderne, bavard, qui cherche avant tout à en jeter à son interlocuteur et qui n'a pas de répondant véritable. Il est dans une solitude mortelle, quoi, cet homme-là.
Je crois. Du répondant, peut-être qu'il en a quand même un peu.
Il en a un peu, mais on sent que Camus nous décrit quelqu'un de seul. Moi, c'est ça que je ressens.
Absolument.
Ce monologuant est quelqu'un de seul. Finalement, les gens qui parlent sans écouter la réponse, ce dont ils témoignent, c'est d'une certaine forme de solitude.
Alors, sans écouter la réponse, il donne quand même la parole à son interlocuteur.
Oui.
Et plusieurs fois, c'est son interlocuteur qui ne répond rien.
D'accord.
Notamment quand il demande à son interlocuteur de se dévoiler à plusieurs reprises, dans l'affaire des enseignes. Quand il dit que les gens se cachent et qu'ils n'avouent pas leur véritable nature. Et contrairement aux époques anciennes où on s'affirmait négrier sans honte.
Oui.
Et il demande, et vous, quelle serait votre enseigne ? Moi, ce serait Janus, visage double, parce que je suis double. Je ne suis pas un et cohérent. Vous, quelle serait votre enseigne ? Et l'interlocuteur ne répond rien. Et puis à la fin, il demande carrément de commencer une confession. Et quelque part, le dialogue commence à la fin du roman, puisque l'interlocuteur, quelque part, c'est nous. Et Camus ne peut pas parler à notre place. Et c'est à nous d'entrer en dialogue avec Clémence et d'entrer en dialogue avec ce roman.
Ah, ça c'est intéressant comme suggestion. C'est peut-être ça, Sylvain, qui n'a pas été fait par ton esprit, on va dire, enfin, je sais pas comment dire, peut-être que
mais
tu
je pense,
n'as
ouais.
pas joué le rôle d'être celui qui était face à... Bah,
un peu inconsciemment, j'imagine qu'en lisant le texte, comme tu dis, de fait, on est à la place de celui à qui il parle, ouais. quand même.
Et donc, quelle impression ça t'a donné ?
Mais le problème, alors voilà, c'est peut-être plutôt que, je sais pas, je dois être quelqu'un de peut-être un peu méfiant, et franchement, en lisant le début, on
et
a l'impression...
Et toi, à la place de l'interlocuteur, tu te serais barré.
Ben oui, parce qu'on a l'impression qu'il veut nous entourlouper quand même, le gars, là.
Il veut
je
nous
trouve qu'il a un discours d'embobineur, quand même,
voilà.
au départ.
Mais c'est un avocat, donc c'est normal.
Ouais, ben voilà. voilà. Enfin, il y a un peu de ça aussi, oui. et...
Donc, ce que le thème philosophique qui se dégage, c'est le thème de la parole, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire la différence entre une parole sincère et la parole manipulatrice, la
un
parole
peu,
qui
ouais,
cherche
ouais, ouais.
à embobiner. Hein, d'accord. Donc, on peut aussi lire ce texte en disant, moi, ce que j'aime, c'est que ça met en exergue, ça met en lumière ce qu'est une parole manipulatrice. Alors, peut-être on peut donner la parole à Anne. Qui va nous lire un extrait où cette notion d'avocat et de... Tu sais, tu avais dit qu'il y avait des choses qui t'avaient touché sur... Quand il parle d'émotions justes, tout ça...
Voilà, c'est ouais. ça, je lis. Oui. Ok. Il y a quelques années, j'étais avocat à Paris. Et ma foi, un avocat assez connu. Bien entendu, je ne vous dis pas mon vrai nom. J'avais une spécialité, les nobles causes. La veuve et l'orphelin, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi, car enfin, il y a des veuves abusives et des orphelins féroces. Il me suffisait pourtant de renifler sur un accusé la plus légère odeur de victime pour que mes manches entrassent en action. Et quelle action ! Une tempête. J'avais le cœur sur les manches. On aurait cru vraiment que la justice couchait avec moi tous les soirs. Je suis sûre que vous auriez admiré l'exactitude de mon ton. La justesse de mon émotion, la persuasion et la chaleur, l'indignation maîtrisée de mes plaidoiries.
Alors, ce qui avait attiré notamment ton attention sur ce très bel extrait,
oui.
c'est la justesse de mes émotions.
Bah oui, c'est la justesse de l'émotion, c'est-à-dire qu'une émotion n'est pas juste ou fausse, une émotion est ou n'est pas. Donc, si l'émotion est juste, on veut bien nous dire par là, en mettant ces deux noms un petit peu, ces deux mots qui ne vont pas ensemble, qu'il joue la comédie.
Donc, ça veut dire qu'il y a du calcul, quoi.
C'est du calcul, totalement.
Et
oui.
Est-ce que ce thème, finalement, ne renvoie pas l'image de nous-mêmes, hein, comme disait Nicolas, il faut se mettre à la place de celui qui répond à Clémence, en disant, finalement, tout est calcul dans nos vies aussi, ou peut-être dans la vie de l'homme. Du 20e siècle, 21e siècle, des temps modernes, tout est calcul. Est-ce que c'est pas ça aussi est-ce qu'on n'est pas tous dans la duplicité, quoi ? Je sais pas, hein. C'est une question que je pose.
Ça, cette duplicité-là, elle n'est pas forcément uniquement moderne. Quelque part, nous avons traité un ouvrage de philosophie qui s'appelait le Gorgias de Platon.
Oui.
Et c'était exactement ce thème-là, c'est-à-dire le langage non pas comme outil pour chercher la vérité, mais le langage comme outil de persuasion.
Alors, est-ce qu'elle ne devient pas, cette question, plus criante, plus terrible, plus tranchante au moment où l'homme se retrouve sans Dieu ? Voilà. C'est-à-dire, chez les Grecs, chez les Gorgias, on a dit qu'il y avait un dialogue très serré entre Socrate, Platon qui met en scène Socrate, et ses interlocuteurs. Ce dialogue, il aboutit sur un échec. Et Platon, face à l'échec, en revient au mythe.
Oui, d'accord. Il termine là-dessus.
Donc, au fond, on ne sait pas, on tranche. Il faut faire un pari, pour reprendre des termes anachroniques. Le pari se fait sur le mythe. Avec Pascal, il y a aussi un pari. Mais si on se retrouve avec Camus, avec un homme sans Dieu, qu'est-ce qui peut trancher ? Voilà la question. C'est ça aussi. On est démuni, il n'y a plus d'autorité pour trancher cette question de la vérité. Celui qui est dans le faux, qui est dans l'embobinement, dans la parole qui embobine, qu'est-ce qu'on va lui opposer ?
Oui, mais moi, j'ai pas l'impression que ce sera mieux avec un Dieu. Je comprends pas pourquoi, avec Dieu, on tranchera mieux dans la vérité.
Alors, je voudrais la...
C'était pas la question de Nazim, en fait. Hein.
C'est ça. C'est-à-dire, non, mais c'est bien, parce que je savais bien que, de toute façon, quand on pose des questions, il faut la reformuler. Je ne dis pas que c'est forcément mieux. Je dis que on est démunis. Et pour le coup, la question se pose, qu'est-ce qui va opposer ? Qu'est-ce qu'on peut opposer aux embobineurs, quoi, aux Jean-Baptiste Clamence de notre temps, ou si c'est même une partie de nous-mêmes, à cette partie de nous-mêmes qui ressemble à Clamence, parce qu'on a tous une partie qui embobine dans notre métier, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale. Qu'est-ce qu'on peut lui opposer ? Qu'est-ce qui peut nous faire adhérer à plus de sincérité, moins de duplicité ? Voilà. Une mouche.
Ouais. Une mouche passe. Il y a plusieurs choses. En fait, mais effectivement, après, c'est un jugement qu'on peut avoir sur soi-même. Mm-hmm. Pour reprendre une expression classique, populaire, pouvoir se regarder dans la glace.
Oui.
Un jugement sur soi. Et d'ailleurs, Clamence, à un moment donné, il en parle de ça.
C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il ne peut plus se regarder dans la glace.
Et du coup, on devient son propre juge.
Oui.
Et sans doute, c'est le pire de tous.
Voilà, c'est ce qu'il dit. On est le juge le plus sévère avec nous-mêmes.
Ouais. Anne, tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, parce que le jugement de Clamence, j'ai pas l'impression que ce soit sa conscience qui le travaille, c'est plutôt le fait qu'il a découvert qu'il n'était pas si exceptionnel que ça. Donc, encore une fois, c'est assez ambigu, c'est pas vraiment le jugement comme on avait dans Socrate.
Donc, merci à tous et à toutes. Donc, vous étiez avec Anne Bonneau, Nicolas Lemoine, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même, Nazim Fattès. Je laisse donc les auditeurs se procurer le texte de La Chute, qu'on peut trouver très facilement chez un bouquiniste ou chez un libraire. Le lire, parce que ça se lit donc avec un certain temps, mais c'est très peu épais. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite de l'œuvre et discuter. Merci à Dominique Herpelding à la technique.